France Musique.
Bonjour à vous, bon réveil. En ce samedi 30 mai, il est 8h tout pile. Nous avons pris le chemin de la maison de la radio, toute l'équipe de Musique Matin, Antoine Giraud à la technique, Laurent Lefrançois à la réalisation. Bienvenue à vous.
Musique Matin, Priscille Lafitte, France Musique.
Les parcs et jardins rouvrent doucement, certains dès ce week-end. Des lieux de concert et des salles de spectacle auront la possibilité d'accueillir du public dès le 2 juin, sous condition. Plusieurs festivals se maintiennent cet été, la rentrée de septembre se prépare. La suite s'annonce, on l'espère, un peu plus souriante. Il en sera question avec mon invité tout à l'heure à 8h40, ce sera Alain Perroux, directeur de l'Opéra National du Rhin. Ce matin, on retrouve nos chroniqueurs favoris. Juste avant 9h, Roselyne Bachelot nous dira tout sur l'opéra Electra de Richard Strauss. À 8h30, Marc-Olivier Dupin ouvrira sa fenêtre pour nous faire entendre les chants d'oiseaux au XXe siècle. Et d'ici un petit quart d'heure, Christophe Chassol braquera ses projecteurs sur la basse de Stanley Clarke. La réalité et le calendrier reprennent peu à peu forme avec ce confinement. On en aurait presque oublié que c'est l'année Beethoven.
Thank you.
Les musiciennes du Quatuor Zaïd ont enregistré ce Quatuor à cordes numéro 3 en ré majeur de Beethoven. Ici, on entendait le final. À la Salle Cortot, à Paris, en cette fin de semaine, les micros de France Musique y étaient. C'était la première captation depuis le début du déconfinement et nous serons très heureux de vous faire entendre ce mini-festival Beethoven, ce Beethoven Fest, du 15 au 17 juin prochain. Alors, dès aujourd'hui, l'abbaye de Royaumont rouvre ses portes, l'occasion de flâner dans ce magnifique jardin, d'admirer le réfectoire des moines, en attendant qu'un jour y résonnent à nouveau les voix des métaboles.
Oh.
Un arrangement pour chœur de Ma mère loi de Maurice Ravel. Arrangement signé Thierry Machuel, extrait du Jardin féerique, dernier disque des Métaboles de Léo Varinsky. Cet ensemble vocal est en résidence à l'abbaye de Royaumont et ils participeront, on attend encore confirmation, à une version allégée du festival à partir de début septembre. Un autre festival a lieu dès maintenant, mais sans public. C'est à l'Opéra de Dijon. Nous en parlions la semaine dernière avec Laurent Joyeux, le directeur de l'institution dijonnaise. Et ce soir, la Capella Mediterranea de Leonardo García Alarcón donnera un concert entre Espagne et Argentine et fera se côtoyer un bandoneon, une basse de viol et un cornet à bouquin dans du Piazzolla. Étonnant, non ?
Rosas que vuelan.
Mariana Flores chantant du Piazzolla. Le madrigal et le tango sont deux musiques sœurs aux oreilles de l'Argentin Leonardo Garcia Alarcón, qui confesse avoir toujours joué du tango entre deux messes et trois motets. Et quand il retrouve ses amis argentins venus en Europe comme lui et qu'ils improvisent ensemble, cette danse n'est jamais loin. C'est au programme ce soir de l'Opéra de Dijon en direct sur leur site web. Il est 8h17 sur France Musique, l'heure de flâner dans la discothèque de Christophe Chassol. Bonjour Christophe Chassol.
Bonjour Priscille.
Qu'est-ce que vous avez amené dans votre besace ce matin?
Dans ma besace, j'ai un des meilleurs bassistes au monde, celui qui m'a fait avoir tant d'émotions depuis un jeune âge. J'ai nommé Stanley Clark. On écoute Stanley Clark, un album de Stanley Clark qui date de 75, qui s'appelle Journey to Love, le voyage vers l'amour. Le morceau là s'appelle Song to John Part 2. Et c'est un morceau, c'est chanson pour John McLaughlin en l'occurrence. Il est en trio là, donc avec Chick Corea, son partenaire de toujours, de Return to Forever, et donc John McLaughlin. Ils font des 8-8, c'est-à-dire qu'ils jouent le thème, puis ils improvisent chacun leur tour. La guitare. Et ça va bientôt être au tour de Stanley Clark, donc on va pouvoir écouter son style. Et Chick Corea. Alors il a des lignes de basse comme ça qu'on entend, tu vois, on entend cette ligne de basse. C'est très typique de lui ça. Là il improvise encore. Donc Stanley Clark est né en 1951, c'est un peu ce qu'on appelle un teenage prodigy, c'est-à-dire un jeune, un adolescent un peu virtuose, vraiment, qui est très très précoce. Et moi je l'ai connu parce que j'écoutais Return to Forever, Chick Corea et Return to Forever, et ils ont voilà parcouru les années 70 ensemble, Chick Corea et Stanley Clark, et vraiment je suis amoureux de son jeu de basse, de son style. Alors bon, si je peux faire une définition du style, j'ai trouvé une définition du style chez Deleuze, donc dans l'ABCDR, à S comme style. Il explique que le style, avoir un style, c'est creuser dans sa propre langue une langue étrangère, c'est-à-dire parler son langage, sa langue maternelle, mais la déformer, lui faire subir un traitement contorsionnant et nécessaire qui constitue comme une sorte de langue étrangère dans la langue dans laquelle on écrit. Et donc en gros, c'est faire de l'argot avec sa langue maternelle. Et ensuite, il explique porter tout cela à une limite musicale, c'est-à-dire faire swinguer cet argot. En fait, faire swinguer son argot, c'est avoir un style.
C'est joli, ça.
Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Ça marche pour les écrivains, ça marche pour tout le monde. C'est les rappeurs, en fait, finalement, qui font beaucoup ça, quoi, littéralement. Mais alors, Stanley Clark, dans son cas, moi, je définirais... Enfin, je le définis pas, mais je peux décrire son style comme... je ne sais pas, en fait, finalement. Donc, je dirais qu'il envoie des obus, quoi. Il fait... Comme ça, il envoie des obus, quoi. On va écouter un morceau qui s'appelle Return to Forever.
On peut écouter un obus musical?
Ouais, bah, on peut écouter, ouais. Ouais. Écoute son gros son de basse. Il est en do. Et écoute comment il passe à l'octave en envoyant des obus. Il est génial parce qu'il a vraiment aussi inventé un instrument à lui, la contrebasse piccolo. Donc il a une contrebasse qui monte beaucoup plus dans les aigus. C'est aussi un grand bassiste électrique. Et, par exemple, j'ai quelque chose que je voudrais vous faire écouter. Il joue de la basse électrique dans un album de Return to Forever qui s'appelle Hymn of the Seventh Galaxy. Hymne de la septième galaxie, qui date de 73. C'est la version électrique de Return to Forever. Et il y a un morceau qui s'appelle Theme to the Mothership. Le thème vers le vaisseau mère. Et là, il doit faire un sol pour que les solistes puissent improviser. La note sol. Mais c'est intéressant de voir comment il l'aborde. Déjà, il met de la fuzz. C'est une pédale qui effectise le son. Et alors, son sol, il fait sol, sol, mi, fa, fa, sol, sol, mi, fa, fa, sol, 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 do, si, la, sol, sol, mi, fa, fa, sol, sol, sol. On va écouter, c'est le cinquième extrait, Laurent. Les obus.
C'est un bassiste très présent. Hein.
Ah ouais. Mais la basse est la racine. La basse explique les morceaux, moi je trouve. Donc oui, il faut que la basse soit forte dans la musique. Sinon, elle remplit pas son rôle, je trouve. Je vais vous faire écouter le quatrième extrait, Laurent, c'est Bass Folk Song. C'est pour aussi montrer à quel point il navigue dans les styles. Bon là, les styles se ressemblent, hein. Ça reste du jazz. Mais c'est quelqu'un qui après a fait tellement de choses aussi dans la pop. Il a fait des musiques de films comme Passager 57, beaucoup de musiques de films, et il navigue. Et là, c'est un album de, je ne sais plus quelle année, peut-être aussi 73, qui s'appelle Children of Forever, où il y a Didi Bridgewater et Andy Bay qui chantent, Chick Corea aussi, et c'est des compositions à lui, et Bass Folk Song. Écoutez précis le son de la basse et à quel point c'est folk et que ça sonne aussi du sud. C'est un grand mélange. On écoute.
Voilà, merci Christophe de nous mettre de si bonne humeur le matin, dès 8h du matin. Merci, à la semaine
plaisir.
Prochaine Christophe.
À la semaine prochaine.
Musique Matin, Priscille Lafitte, France Musique.
Et il est 8h24 sur France Musique. Quelques bonnes nouvelles. La musique bouge, elle est bien vivante. Le festival du Périgord Noir, fin août, est maintenu. Le festival Debussy en région Centre-Val de Loire, fin juillet, est également maintenu. Pendant que d'autres manifestations, elles, s'improvisent. Tiens. Cet après-midi et demain, la soprano Clémentine de Couture et la flûtiste Florencia Jorena vous proposent un concert en plein air dans la forêt de Fontainebleau. Une façon simple et dépaysante de respecter les distances sanitaires. Alors, enfilez vos chaussures de marche, asseyez-vous dans l'herbe sur une souche de pin ou sur un rocher et laissez-vous séduire par cet alliage de la voix et de la flûte traversière imaginé par Albert Roussel.
Thank you.
La flûte de Michel Moragues et la voix de Sandrine Pio dans une page bucolique d'Albert Roussel sur un poème de Ronsard. La soprano Sandrine Pio est programmée au Festival d'Aix-en-Provence cet été dans le casting de la création de Kaya Sarrerou, Innocence. Le Festival d'Aix, un temps, envisageait des captations de certaines productions. Cela semble aujourd'hui très compromis. On vous en dira bientôt davantage. 8h, bientôt 30 minutes sur France Musique. On garde les oreilles grandes ouvertes sur la nature avec la chronique de Marc-Olivier Dupin. Bonjour Marc-Olivier Dupin.
Bonjour Priscille.
Bonjour, vous êtes chez vous, à Paris, il me semble. Et moi, il se trouve que je suis dans mon jardin, tout au fond d'un potager. Vous entendez peut-être quelques pépiments de merle ou autres coucous autour de moi. Et d'ailleurs, vous aussi, Marc-Olivier, depuis le confinement, votre amour fou pour les oiseaux ne faiblit pas.
Mais oui, nous avons la chance à Paris, pas autant que vous, mais peut-être, mais on entend des oiseaux dans Paris intramuros, ce qui est un luxe absolument merveilleux. Mais vous savez, à toutes les époques, les compositeurs se sont passionnés pour les chants d'oiseaux. On pourrait en faire une véritable anthologie. Mais rassurez-vous, pour vous épargner, je me limiterai dans cette chronique à quelques exemples du XXe siècle. L'un des plus émouvants, de Ravel, « Les très beaux oiseaux de paradis » pour soprano et chœur mixte.
Et Marc-Olivier, je crois que de votre cabinet de curiosité, vous nous avez ressorti une pièce assez singulière.
Mais oui, grâce à cette chronique, je découvre plein de merveilles, et notamment l'œuvre d'un compositeur toulousain d'origine, Dinam Victor Fumé, 1867-1949. Ce compositeur assez singulier était organiste, improvisateur très doué, semble-t-il, élève de Franck, ami de Verlaine, et totalement passionné de spiritisme, un personnage tout à fait haut en couleur. Il a composé une belle messe des oiseaux pour cœur de femme.
Mais au XXe siècle, Marc-Olivier, les compositeurs ne sont-ils pas tentés de représenter musicalement les oiseaux autrement que sous la forme d'un chœur ?
Oui, beaucoup de compositeurs ont traduit instrumentalement la virtuosité mélodique des oiseaux. Alors, l'un des plus grands, Messiaen, notamment dans son merveilleux opéra Saint-François d'Assise, qui est une œuvre, de mon point de vue, trop mal aimée, traduit le babil des oiseaux, la polyphonie des oiseaux, avec des instruments à vent aigu, mais aussi avec des percussions, ce qui donne un effet absolument saisissant. Et mélodiquement, peut-être l'oiseleur le plus magicien de ce XXe siècle reste Stravinsky, avec sa capacité à transformer une soprano en véritable rossignol. Stravinsky, Nathalie Dessay.
Magnifique Nathalie Dessay. Et Marc-Olivier, dites-moi, est-ce qu'une voix d'homme peut aussi se métamorphoser en chant d'oiseau ?
Alors, pas n'importe quel homme, mais un seul, à mon avis, le peut, c'est mon idole Luis Mariano.
Merci beaucoup Marc-Olivier Dupin, et à la semaine prochaine.
Je vous en prie, Priscille, à la semaine prochaine.
Une fille de roi, au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Un jour prenant son vol, un gentil rossignol vint dire à la princesse: je t'apporte l'espoir, et c'est pour le revoir qu'elle chantait le soir. Rossignol, rossignol de mes amours, de que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol, rossignol de mes amours, quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera, et l'amour viendra peut-être. Ce soir, sous ma...
Luis Mariano. Luis Mariano avait travaillé avec le parolier Marcel Dabadi, père de Jean-Loup Dabadi. Et à 11h tout à l'heure, au micro de Benoît Dutertre, vous pourrez réentendre Dabadi fils, Jean-Loup donc, qui nous a quittés il y a quelques jours. Et puis à 13h tout à l'heure, il faut bien plusieurs émissions de Ciné Tempo pour faire le tour de la filmographie de Michel Piccoli, des souvenirs et des musiques rassemblées par Thierry Jousse, bien évidemment. Et puis j'aimerais saluer ce matin la mémoire de Maury Canté, pionnier du funk afro, issu d'une lignée de griots mandingues, qui nous a quittés la semaine dernière. Il avait signé, l'année dernière, un livre-disque magnifiquement illustré par Lauriane Bellon. Le projet s'intitule « Cocorico, balade d'un griot ». Il a obtenu le prix coup de cœur « Musique du monde » de l'Académie Charles Cros, catégorie « Jeune public ». La musique a donc été composée par Maury Canté et enregistrée dans son studio à Conakry. Et Reda Kateb a été invitée à conter cette histoire. C'est notre recommandation de musique à écouter en famille.
Cocorico, balade d'un griot. En pays mandingue, dans la forêt autour du lac au Caïman, le coq blanc mystique est apparu. Celui qui vient annoncer les grandes venues. Dans la cinquième case, derrière le terrain rouge, à 96 pas des grands arbres, 96, entend bien. Pas un de plus, pas un de moins. Un nouvel humain va naître. Tout près de la route qui part du berceau du monde pour aller au bout d'ailleurs, on a sorti la kora, le balafon, le tama et les kessé-kessé pour accueillir le petit prodige, déjà grand ami du coq et des caïmans.
dum barakati, subadi bima dum barakati, dum barakati, telefonaro dum barakati, kungku dum barakati, sabu ya fe dum barakati, luna fana finte, salima mam finte, kodo dum barakati, yemba rabalo, koba na fara mukabila, sise yina dum bansante. Makamara kabakwe
ila dunu marakasi
moti kimaira bamadina
amakili ela la gidalela
moti kimaira bamadina
amaye bunyala batele ma kokoriko kokoriko kokoriko.
Dinkasi fasire la de
la dunu marakasi
Fatuma taka marake kanko kone la de ne
dunu marakasi
Beranimbalia sangia nakalu de ne dunu marakasi.
Mori Kante, il y aurait dû y avoir une série de concerts dédiés à la musique africaine à la Philharmonie de Paris ce week-end. Une programmation embrassant l'afrofuturisme et la tradition, associant le Kronos Quartet et le groupe malien Trio d'Akali, héritier de la tradition des griots, eux aussi. Angélique Kidjo aurait dû s'emparer du répertoire des Talking Heads. Bref, tant d'occasions, tant de belles occasions ratées de découvertes artistiques et d'élargissement de l'horizon musical. Alors, comment renouer avec les concerts maintenant que les contraintes sanitaires se desserrent? C'est une question que se posent toutes les directions de salles et d'opéra en ce moment. Laurent Beigle, directeur de la Philharmonie de Paris, esquisse quelques perspectives dans un entretien qu'il a accordé à Christian Merlin pour Le Figaro. Il remet en question certaines mauvaises pratiques dans le milieu classique. Il envisage notamment d'accueillir des orchestres étrangers sur un temps plus long. On va en parler ce matin avec mon invité Alain Perroux, directeur de l'Opéra National du Rhin, qui est confronté aux mêmes problématiques. Bonjour Alain Perroux.
Bonjour Priscille.
Bonjour, vous êtes en direct avec nous au téléphone, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir accepté de vous exprimer sur cette situation qui change de jour en jour. Le Premier ministre Édouard Philippe a donné la possibilité aux théâtres et aux salles de concert de rouvrir à compter du 2 juin, sous certaines conditions d'accueil du public très particulier. Est-ce que cette annonce change la donne pour vous ?
Écoutez, c'est une annonce importante qui, en tout cas, va dans le bon sens et qui, je crois, a été accueillie avec des sentiments très positifs de la part de l'ensemble de la profession du spectacle vivant, qui est quand même très impacté par cette crise. Alors, c'est une étape importante qu'on attendait, mais je dois avouer moi-même que je ne l'attendais pas aussitôt, en fait. Donc, on est un tout petit peu pris de court, mais néanmoins, c'est quelque chose de très positif. Maintenant, tout n'est pas résolu pour autant. Maintenant, comme vous l'avez dit, nous pouvons accueillir du public dans nos salles, sous conditions. Il va falloir organiser tout ça. On a commencé à y réfléchir il y a quelques temps déjà. On va devoir sans doute revoir les jauges à la baisse, parce qu'il va falloir pratiquer la distanciation sociale dans les salles, laisser des sièges vides, des rangs vides parfois. Donc ça a un impact évidemment sur le nombre de personnes que nous pouvons accueillir et donc aussi sur les recettes de billetterie possibles. Maintenant, la prochaine étape que nous attendons, mais qui pour l'instant on n'a pas vraiment de visibilité là-dessus, c'est comment et dans quelles conditions est-ce qu'on pourra permettre aux interprètes d'être sur un plateau, enfin ou sur une scène de concert ou sur un plateau de théâtre ou d'opéra, parce que pour l'instant on a encore l'instruction de pratiquer la distanciation, y compris avec des chanteurs d'opéra, des danseurs, des comédiens. Évidemment, il est hors de question de leur faire porter un masque et puis d'interdire le contact. Ça, c'est quand même difficile dans beaucoup de mises en scène. Donc, ce à quoi nous réfléchissons aujourd'hui, c'est comment, si ces contraintes subsistent, est-ce qu'on peut adapter les spectacles déjà prévus pour qu'ils y répondent. Mais moi, je ne veux pas imposer ça aux metteurs en scène. Et dans ce cas-là, si nous ne pouvons pas l'imposer à certains projets qui sont déjà lancés depuis longtemps, enfin, qui sont préparés, pensés depuis de nombreux mois, est-ce qu'on peut remplacer ces projets-là par d'autres qui seraient, eux, adaptés à cette situation.
Oui, c'est toute la question de à quoi pourrait ressembler dans le monde d'après une mise en scène d'opéra. Les choses pourraient se clarifier à quelle date et est-ce qu'il y a une date butoir pour vous, pour laquelle vous pouvez programmer et assurer la programmation de l'année prochaine ?
Les dates butoirs, oui et non. C'est-à-dire que on a compris depuis le début de cette crise qu'elle était évolutive. Vous l'avez dit vous-même, ça change de jour en jour. Et je crois que the readiness is all, hein, comme on dit dans Hamlet, il s'agit d'être prêt. Hein, c'est la chose la plus importante. Donc pour être prêt, on essaie d'anticiper le plus possible. Et en même temps, il faut garder une vraie flexibilité dans cette crise. C'est-à-dire prendre des décisions. C'est même, et c'est là la chose la plus compliquée en réalité, parce que prendre des décisions des mois, voire des années à l'avance, comme c'est l'usage à l'opéra, eh bien là, c'est devenu impossible. Donc, on essaie d'anticiper ce qu'on peut, de prévoir des plans B, mais quand même en attendant le plus longtemps possible avant de les mettre en œuvre, avant de les lancer. Donc date butoir, je n'en ai pas vraiment, le plus tôt sera le mieux. Et puis, je crois qu'il ne faut pas rester passif à attendre les recommandations gouvernementales. Il faut déjà essayer d'imaginer quelles pourraient être ces recommandations, comment est-ce qu'on pourra s'y adapter. Puisque de toute façon, après, en fonction des... tout ça est un peu... c'est une question complexe. Je sais que le ministère est en train de travailler sur des guides sectoriels pour donner des indications au monde du théâtre, au monde de la danse, au monde de l'opéra. Mais après, il appartiendra à chaque structure de trouver, enfin, de prendre en compte ces recommandations pour bâtir des protocoles les plus précis possibles, qui soient spécifiques aussi à chaque singularité de chaque structure. Il faudra se mettre d'accord avec les représentants du personnel, avec la médecine du travail, et en fonction de ça, on pourra justement établir des protocoles précis qui nous permettront d'aller de l'avant et de prévoir des choses.
Alain Perroux, quelles activités ont d'ores et déjà pu reprendre à l'Opéra de Strasbourg ? Est-ce qu'il y a du monde dans les murs ?
Oui, absolument. À Strasbourg et d'ailleurs à Mulhouse aussi, et à Colmar, donc les trois villes de l'Opéra National du Rhin, les activités ont repris dès que le déconfinement a été possible, parce que là encore, on s'y était préparé, on avait réfléchi aux mesures à mettre en œuvre pour permettre à toutes les équipes de l'Opéra National du Rhin de revenir au travail. Alors celles qui étaient en télétravail pendant le confinement sont restées en télétravail, conformément aux recommandations gouvernementales. Et puis ceux qui devaient être sur leur lieu de travail pour exercer leur métier, eh bien on a progressivement permis leur retour. Le chœur répète depuis maintenant 3 semaines dans des conditions très strictes, mais le chœur fait un travail utile sur le texte en norvégien de la première production lyrique de la saison prochaine, en petits groupes, dans le respect de la distanciation, pour l'instant avec masque, etc. Le ballet du Rhin est au travail dans ses studios à Mulhouse, ce dont d'ailleurs le New York Times fait état depuis hier. Il y a un reportage avec des photos qui montrent nos danseurs faire des exercices à la barre, et puis aussi regagner de la masse musculaire. Donc les choses se mettent en place, nos équipes techniques aussi ont été de retour progressivement et les choses se passent bien.
Vous avez pris la succession d'Eva Kleinitz qui avait déjà beaucoup avancé sur la programmation de cette saison. Elle s'est éteinte il y a un an, le 30 mai 2019.
Un an exactement. Un jour pour jour, j'ai une pensée toute particulière pour elle aujourd'hui.
En quoi cette programmation lui ressemble rapidement ?
C'est une programmation donc qui a effectivement été conçue entièrement par Eva et qui s'inscrit donc dans la continuité des 3 saisons précédentes, qui étaient les saisons signées par elle. Et c'est une saison qui lui ressemble parce que d'abord elle est très contrastée, elle est assez audacieuse à certains égards, dans les choix de metteur en scène, dans l'idée d'avoir une création mondiale va être une chose passionnante, enfin un ouvrage d'ores et déjà très prometteur qui s'appelle Aimon et qui est en train de sortir de la plume du compositeur libanais Zad Moultaka sur un livret de Polony. Cet ouvrage sera créé dans le cadre du Festival Ars Mondo qui va perdurer et qui se focalise toujours sur un pays lointain, sur la culture d'un pays lointain, en l'occurrence ce sera le Liban. Il y aura alors des grands classiques comme Madame Butterfly, Hansel et Gretel de Humperdinck pour les fêtes, et puis des choses plus rares, pour la première fois Mort à Venise de Britten à l'Opéra National du Rhin, et puis en début de saison, une forme assez singulière imaginée par le metteur en scène catalan Calixto Vieito, d'après le Peer Gynt de Grieg et Ibsen.
Oui, et on est en train d'entendre la soprano norvégienne Marie Eriksmoen, justement, dans du Grieg, et qui doit interpréter notamment la chanson de Solveig dans ce spectacle de Peer Gynt, qu'on espère possible, puisqu'elle sera seule en scène à chanter. Merci beaucoup Alain Perroux, merci pour ces explications ce matin, je vous souhaite une très bonne journée.
Merci, à vous aussi, bonne journée Priscille.
Der sankte Hans, storm og brenn og blist i dans, alle jäger skal spinne. Bro, bro, brinn.
Votre programme ce soir sur France Musique à 19h, Yvan Amar dans son Jazz Club a choisi de faire entendre le pianiste Omri Mor en quartet avec basse, contrebasse et batterie. Formation singulière donc enregistrée lors de son passage au Sunside à Paris en avril 2018. Et puis tout de suite, on va entendre la chronique de Roselyne Bachelot sur la diffusion de samedi à l'Opéra à 20h.
L'heure est trouvée sur le plateau.
Allons-y. Effet 203, top. Entrée du chef.
Bonjour Roselyne Bachelot.
Bonjour Priscille.
Dites-moi, Roselyne, ce soir, ça va déménager sur France Musique. Il faut se préparer à un électrochoc musical.
Oh oui, ce soir, vous êtes priés d'attacher la ceinture, le harnais de sécurité et de vous cramponner. France Musique et Judith Chen, dans Samedi à l'Opéra, vont nous donner à entendre l'œuvre lyrique la plus violente, la plus déjantée, la plus déchaînée, la plus sombre de tout le répertoire lyrique, Electra de Richard Strauss. On ne peut sortir indemne de cet opéra qui vous cloue littéralement à votre siège. Vous en sortez hébété, comme si on vous avait bourré de coups de poing pendant 1h45 sans entr'acte. Alors l'argument est tiré de la pièce éponyme de Sophocle, remaniée par le partenaire habituel de Richard, Hugo von Hofmannsthal. Avec son amant, Égiste, Clytemnestre a assassiné son mari Agamemnon. Leur fille Electra, Electre, dans une démence hystérique, s'est plongée dans un abîme de revanche et elle attend le retour de son frère Oreste, qui s'est fait passer pour mort, pour qu'il soit la main du meurtre du couple criminel. Sa sœur, Chrysothémis, tente de la ramener à la raison, mais cet appel se fracasse contre le mur de la folie d'Electra. Après le double assassinat commis dans un fracas épouvantable, Electra se lance dans une danse sauvage et sa vengeance accomplie meurt. Vous reconnaîtrez qu'on a connu plus gai. Vous imaginez bien que le 25 janvier 1909, à Dresde, pour la première d'un tel déchaînement, l'accueil fut plutôt tiède. Mais depuis plus d'un siècle, Electra constitue un jalon majeur du répertoire lyrique, marqué par les plus grands artistes. Ceux qui ont eu l'occasion d'assister à Aix-en-Provence en 2013 à ce qui fut la dernière et magistrale mise en scène de Patrice Chéreau gardent l'image du salut du génial réalisateur qui devait être emporté par la maladie quelques semaines plus tard. Sous la baguette précise et inspirée de Semyon Bychkov, l'orchestre du Staatsoper de Vienne se déchaîne avec maîtrise. En l'occurrence, la phalange voulue par Strauss compte entre 120 et 135 musiciens, plus quelques instruments rares comme le kelphone ou le contrebasson. C'est un véritable tsunami musical qui s'abat sur vous. Il faut saluer la performance de cette mise en place, puisqu'au Staatsoper de Vienne, théâtre de répertoire, il n'y a que deux ou trois répétitions. Vous en jugez à travers le fameux Allein, weh, ganz allein. Et oui, Elektra est vraiment seule. Je suppose que vous vous passerez aisément de la mise en scène d'Uwe Erik Laufenberg, qui situe l'action dans une cave à charbon et dans les toilettes d'un asile psychiatrique, loin, très loin du palais de Mycène donc. Cela vous permettra de vous concentrer sur un quatuor vocal absolument sublime. Dans le rôle titre, Christine Goerke donne à son Elektra une subtilité infinie, sans renoncer à son aspect grandiose, mais très loin de certaines interprétations taillées à la hache. On retrouve avec bonheur l'immense Waltraudmayr, une habituée du rôle qu'on avait admirée dans la mise en scène de Chéreau ou celle de Carsen à l'Opéra de Paris, qui lance des aigus qui feraient pâlir de jalousie bien des jeunettes. Simone Schneider campe une chrysotémie fastueuse et flexible, et le court rôle d'Oreste est tenu luxe suprême par le grand Michael Vohle. Mais face à un tel trio féminin, il fallait du lourd. Et donc, la voix d'airain d'un grand baryton basse. Et je vous laisse être emporté par l'air final. Wo bleibt Elektra?
C'est donc Elektra de Richard Strauss au programme de samedi soir à l'Opéra, présenté par Judith Chen à 20h. Ce matin, il y avait à la technique Antoine Giraud. Un grand merci à Emmanuel Dupuis, José Bernays, Emmanuel Morse-Daquin qui ont permis les enregistrements des chroniques à distance, chacun et chacune chez soi. À la réalisation ce matin, Laurent Lefrançois, attaché de production Marie Ferdinand. Merci à vous pour votre fidélité, votre écoute. La journée s'annonce belle sur France Musique avec plein de nouvelles émissions et notamment un Génération France Musique en compagnie de Léo Varinsky, chef du chœur Les Métaboles, qu'on entendait un peu plus tôt dans cette matinale, mais aussi Thibaut Noali, violoniste et chef de l'ensemble Les Accents. Ce sera tout à l'heure avec Clément Rochefort. Bonne écoute et bon week-end à vous.
À réécouter sur francemusique.fr.